إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمانا الله وإياكم منها ثم أما بعد إخوتي في الله وأخوات ما زلنا نقرأ كتاب شرح كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى مع شرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله جل وعلا وقد وصلنا إلى باب 57 وهو باب يبدأ بالجاري أي نعم فقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوسيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه. Donc nous sommes toujours dans le chapitre numéro 57 intitulé le chapitre du fait de commencer par le voisin. C'est-à-dire commencer au niveau de l'ihsan, la bienfaisance, la bonté, la générosité par le voisin. Par le voisin. Voyez, et on avait mentionné donc plusieurs hadiths qui ont rapporté yani, les mêmes paroles, mais avec des chaînes de transmission différentes. Cette parole, c'est celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Jibril alayhi salam n'a cessé de me faire des recommandations, c'est-à-dire n'a cessé de m'ordonner d'être bienfaisant envers le voisin jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait en faire un héritier. Donc on a vu ce hadith-là avec des chaînes de transmission différentes. Et là, on va voir le hadith numéro 106 également qui ramène la même parole, mais avec une autre chaîne de transmission. Il dit donc l'imam al-Bukhari, Muhammad ibn Sallam, nous a rapporté, qui a dit, Abdul Wahhab al-Thaqafi nous a informé, qui a dit, j'ai entendu Yahya ibn Sa'id dire, Abu Bakr m'a dit, ou m'a rapporté. Donc Abu Bakr ici, attention à ne pas confondre avec le compagnon. D'accord ? On ne parle pas du compagnon ici. Voyez ? As-Siddiq, radiallahu anhu, mais c'est l'un des rapporteurs de hadith parmi les salafs. Tayyib, donc ici c'est un tabi'i. Il s'appelle Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr. Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr. Et non Abu Bakr al-Sahabi al-Jalil al-Siddiq radiallahu anhu, qui a dit que Amra, donc Amra, c'est la tante justement de Abu Bakr ibn Muhammad. Hein, ça s'appelle Amra bint Abd al-Rahman, qui est donc une tabi'iyya également. Une tabi'iyya, c'est-à-dire une personne qui a rencontré des compagnons sahaba et qui est mort sur l'islam, alhamdulillah. Et donc sa tante Amra, elle a dit à Abu Bakr qu'elle a entendu Aïcha. Elle a entendu Aïcha, radiallahu anha, dire: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Jibril n'a cessé de m'ordonner la bienfaisance envers le voisin jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait le faire hériter. Tayyib. Donc là, on a encore le même hadith avec peut-être une lettre qui change, hein, qui est le signe dans Sayuwarrithuhu, alors que dans celui-là, on a La yuwarrithuhu. Tayyib. Mais à part cette lettre-là, la parole est exactement la même. Bien sûr, on a la différence au niveau de la chaîne de transmission. Donc le fait d'avoir plusieurs chaînes de transmission pour une seule et même parole et un seul hadith vient fortifier le hadith, bien entendu, sachant que toutes les chaînes que l'on a entendues, elles sont authentiques. Bihamdillahi azza wa jal. Fa bitab' hadha al-hadith sahih kama marra fi as-sahihayn wa min rijalihim Abdul Wahhab al-Thaqafi thiqa. Donc le hadith, bien sûr, comme on l'a vu, dans tous les cas, il se trouve dans les deux authentiques. Hein? Donc lorsque tu sais que un hadith se trouve dans le sahih del Bukhari et le sahih de Muslim, cela te montre le plus haut degré d'authenticité du hadith. Et parmi les transmetteurs de ce hadith, on a vu hein, Abu Bakr ibn Muhammad, on a vu aussi Amra, sa tante, bint Abdurrahman, et parmi eux, on a Abdul Wahhab al-Thaqafi, qui fait partie des transmetteurs de hadith, thiqa, qui sont très fiables, alhamdulillah. Na'am. Even, qabla an nantaqila ila al-bab al-tali, an qulu lakum qawlan min al-shaykh Zayd al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, qal, yufidu hadan al-hadithan, annahu idha تعدد الجيران ولم يستطع أن يعمهم بالهدية فإنه يهدي إلى أقرب الجيران من باب منزله. نعم، من باب المنزله. فهذه الأحاديث في موضوع واحد، وهو وجوب الإنسان إلى الجار وكف الأذى عنه، وذلك بحسب القدرة والاستطاعة وليس في جانب واحد. فالإنسان يحسن إلى جاره بالكلمة الطيبة والأمر والنهي، فإن الأمر بالخير والنهي عن الشر من النعم العظيمة ومن الهدايا الثمينة والمواساة بالمال عند القدرة من المعطي وعند الحاجة من الجار، والهدية له سواء كان غنيا أو فقيرا، فإن الهدية تسل السخيمة وتسبب الود وكف الأذى عد حتى ولو كان الجار غير مسلم. فلا بد من الإحسان إليه، والإحسان إليه قد يكون سببا في قبوله للإسلام لما يرى من تعامل المسلمين بالإحسان والرفق والرحمة. يجيب الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى dans tous les hadiths que l'on a vu concerne le même sujet qui est l'obligation de la bonté, de la bienfaisance envers le voisin et l'obligation de ne pas le causer de tort. Et cela bien sûr proportionnellement en fonction de la capacité de chacun et de ce qu'il peut faire. Et la bienfaisance ou la bonté ne se limite pas à un type d'acte ou un genre de parole. Là, la bienfaisance peut se traduire par une bonne parole. La bienfaisance peut se démontrer par le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Il dit le cheikh, ordonner le convenable à ton voisin et interdire le blâmable à ton voisin fait partie des plus grands bienfaits et des plus grands cadeaux que tu peux faire à ton voisin, des plus précieux. Ne crois pas que cela se limite juste à de l'argent ou du matériel, ou le fait d'aider ton voisin à monter les courses, ou à réparer un meuble. Là, plus important que ça, c'est lui ordonner le bien, le convenable, le conseiller, et lui interdire le blâmable. Payer, et bien sûr également le réconforter, matériellement, si tu le peux, et s'il a besoin. Lui faire des cadeaux, bien sûr. Qu'il soit riche ou pauvre. C'est pas juste pour le voisin qui est pauvre et dans la nécessité. Même si tu as un voisin qui est riche, fais-lui des cadeaux. Pourquoi? Parce que le cadeau, elle fait disparaître la haine. Elle fait disparaître la rancune des cœurs des gens. Et elle est cause de sympathie et d'affection. Vous voyez? Jusqu'à ce que la personne, donc, elle va ressentir de l'affection pour toi, de la sympathie, même de l'amour. Et cela même si elle n'est pas musulmane. Même si ton voisin n'est pas musulman. Il est obligatoire et il faut que tu sois bienveillant et bienfaisant envers lui. Pourquoi? Parce que l'ihsan, la bienfaisance envers ton voisin, peut être une cause de son acceptation de l'islam. Peut être une cause de son acceptation de l'islam. Par rapport à ce qu'il voit du bon comportement du musulman, de la bonne cohabitation des musulmans, du bon voisinage musulman, à travers la bienfaisance, à travers la bonté, la rahma. Voyez, surtout en ces temps de confinement, où on a peut-être plus de temps à passer avec nos voisins. Ou plus de temps à consacrer dans la bienfaisance pour les voisins. Que ce soit aller faire les courses. Quand tu pars faire les courses, tu demandes à tes voisins s'ils ont besoin de quelque chose, tu leur ramènes. Ou alors, sans même leur dire. Tu as des voisins, tu sais qu'ils sont âgés et qu'ils ne peuvent pas forcément aller faire les courses. Eh bien, quand tu vas faire les courses, tu achètes des choses en plus. Et tu leur déposes un sac devant la porte. Et tu pars. Taïeb, Ceci fait partie des plus grands bienfaits qui font que la personne sera touchée par l'islam et les musulmans. Hein? Il m'a été rapporté d'ailleurs que, à cause du confinement, il y a certaines personnes qui sont obligées de rester avec des musulmans. On m'a rapporté qu'une famille de chrétiens a dû loger une de leurs cousines musulmanes. Et qu'à cause du confinement, elle ne pouvait pas donc partir et qu'elle devait rester chez sa famille chrétienne. Et alhamdulillah, avec les jours, les semaines qui se sont passées, un des membres de la famille chrétienne a voulu embrasser l'islam, alhamdulillah. A voulu embrasser l'islam, pourtant c'était quelqu'un qui allait à l'église, hein, etc., etc. Eh bien, elle a voulu embrasser l'islam par la cause de cette personne musulmane qui est restée avec elle pendant le confinement. Alhamdulillah, donc le confinement c'est un bienfait d'Allah Jalla wa'ala pour ceux qui cherchent la vérité. Alhamdulillah. Na'am. Et à l'inverse, le mauvais comportement, le mauvais voisin musulman ne va faire que faire fuir les gens de l'islam. Hein? Quand les parents musulmans n'assument pas l'éducation de leurs enfants et qu'ils les laissent causer du tort à leurs voisins en bas de l'immeuble avec la musique, le bruit, la drogue, tard la nuit, l'alcool. Qu'est-ce que cela, pensez-vous, que ça va causer au niveau de l'image des musulmans? Et au Yawm al-Qiyamah, chacun rendra des comptes par rapport à son voisinage. Wallah al-Musta'an. نعم فنواصل وننتقل إلى الباب الثامن والخمسين وهو باب يهدي إلى أقربهم بابا فقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا. Donc on passe au chapitre suivant intitulé le chapitre le fait d'offrir des cadeaux à celui qui est le plus proche de ta porte. Hein, je traduis dans le sens du titre. Offrir un cadeau à celui qui est le plus proche de ta porte. C'est-à-dire le voisin le plus proche de toi. Le voisin direct. Yani. Bon, taïeb. Donc il dit l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Hajjaj ibn Minhal nous a rapporté. Il a dit, Shu'aba nous a rapporté, donc Shu'aba ibn Hajjaj, hein, un narrateur de hadith très célèbre, Shu'aba ibn Hajjaj nous a rapporté. Il a dit, Abu Imran nous a informé. Donc Abu Imran al-Jawni, qui a dit, j'ai entendu Talha ibn Ubaidillah, selon Aïcha, radiallahu anha, qui a dit, donc Aïcha, elle a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, j'ai deux voisins, à qui dois-je offrir des cadeaux? J'ai deux voisins, à qui dois-je offrir des cadeaux? Et il a répondu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à celui qui est le plus proche de toi, c'est-à-dire au niveau de la porte, au niveau du palier. Ton voisin le plus proche, yani. Taïe. Fahad al-Hadith, sahihun. Al-Hadith, akhrajahu al-musannifu, aydan fi sahih. Donc le Hadith, il est authentique. Il a été rapporté également par al-Bukhari dans son authentique. Ma'an al-Kalimat, qawluhu babun, yuhdi ila akrabihim baban. يعني الجيران لأن الجار القريب يرى ما يدخل بيت جاره من المآكل والمتاع فيتشوف لها بخلاف الأبعد ولأن الجار الأقرب أقرب استماعا لخبر جاره وأسرع إجابة له فيما يقع عليه من المهمات ولا سيما في أوقات الغفلة. Donc, parmi les mots de ce hadith, d'abord le titre du chapitre. Chapitre, le fait d'offrir un cadeau à le plus proche d'entre eux, le plus proche des voisins. D'accord? En termes de distance de ta maison. Naam. Pourquoi? Pourquoi le voisin le plus proche, il est prioritaire à celui qui est plus éloigné? Il dit le Cheikh, Fida Allah Ta'ala, pourquoi? Parce que le voisin proche, il voit déjà, il témoigne, il voit ce qui entre chez toi. Hein, quand tu fais les courses, il voit, yani, les choses que tu achètes, la nourriture, la provision qui rentre dans ta maison. Alors que celui qui est loin, il ne voit pas tout ça. Alors que ton voisin de palier, lui, il voit, alhamdulillah. Donc, il voit, il guette, il regarde. Il sait ce qui rentre chez toi, ce qui ne rentre pas. Contrairement à celui qui est loin. Hein? Et également, le voisin le plus proche, lui, il est le plus proche au niveau de tes nouvelles. C'est lui qui va recevoir de tes nouvelles en premier. Quand il va t'arriver un heureux événement, lui, il sera informé en premier, avant les autres. Et à l'inverse, lorsqu'il va t'arriver un événement malheureux, il va aussi en être informé avant les autres. D'accord? Et en général, c'est celui qui va t'aider en premier. Lorsque tu vas avoir besoin d'une aide, d'un soutien, en général, c'est celui qui va être là en premier, avant les autres. Pourquoi? Parce que c'est ton voisin. Cela arrive souvent lorsque, dans une famille, la personne elle est seule et qu'il lui arrive quelque chose dans la maison et qu'elle n'a personne, elle va aller chez son voisin, elle va taper directement chez son voisin le plus proche. Elle ne va pas aller voir le voisin qui habite à 100 mètres. Elle va aller voir le voisin direct, de palier. Donc il est plus prompt, yani, à aider son voisin, surtout dans les moments où les gens sont en train de dormir, par exemple, en pleine nuit, hein, lorsque le voisin a besoin, il va aller chez toi, parce que tu es ton voisin de palier. Il va aller taper chez toi en pleine nuit. Il ne va pas aller voir le voisin qui habite loin. Voyez? Eh, na'am. فما يؤخذ من الحديث ينبغي مراعاة مشاعر الجار الأقرب. Ce que l'on tire du hadith, premièrement, il est important de prendre soin des sentiments de son voisin le plus proche, de le réconforter, de l'aider, de prendre soin, parce que justement, la proximité entre lui et toi, fait que, yani, il y a également une proximité au niveau des relations, des rapports sociaux. Donc tu dois prendre soin de lui. ثم قال الإمام البخاري حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة ابن عبيد الله رجل من بني تيم من بني تيم ابن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا. Donc on passe au hadith suivant, le hadith numéro 108, qui est le même hadith mais avec une autre chaîne de transmission. D'accord? Et dans celle-là, on a Muhammad ibn Bashar, puis on a Muhammad ibn Ja'far, puis on a Shu'aba, comme dans le précédent, on a aussi Shu'aba qui revient ici, Shu'aba ibn al-Hajjaj, selon Imran, ou Abu Imran al-Jawni, hein, qui est présent dans la version précédente également. Puis on a Talha ibn Ubaidillahi, rahimahullah ta'ala, qui est aussi présent dans le hadith ou dans la transmission précédente. D'accord? Non. Et selon toujours Aïcha, bien sûr. D'accord? Parce que c'est elle qui a posé la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle lui a dit, ô messager d'Allah, j'ai deux voisins à qui vais-je offrir le cadeau. Auquel des deux voisins? Et là, il a répondu quoi? Il a répondu à celui qui est le plus proche de toi. Au niveau le plus proche de ta maison, de ton palier. Aïna. فهذا الحديث كما ذكرنا صحيح أخرجه البخاري أيضا في الصحيح. Donc le hadith, comme on a déjà dit, il est authentique et il est dans l'authentique de Al-Bukhari. وما يؤخذ من الحديث أولا الاعتبار لقرب الأبواب. Qu'est-ce qu'on tire du hadith? Premièrement, eh bien le fait de prendre en compte la proximité des abouab, des portes, c'est-à-dire de la maison. D'accord? On doit prendre en compte au niveau de la priorité dans la bienfaisance, dans la bonté, dans la générosité, prendre en compte la distance. C'est-à-dire que le voisin proche sera plus prioritaire que le voisin qui est éloigné. Fahimt? Na'am. Thaniyan, تخديم العلم على العمل. لذلك سألت عائشة عن حكم المسألة قبل المباشرة في العمل. قبل الإهداء سألت قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا. طيب. Et deuxièmement, eh bien, ce hadith nous montre une chose importante aussi. تخديم العلم على العمل. العلم قبل القول والعمل. La science avant les actes. La science avant les actes. Et cela en vertu du fait que Aïcha radiallahu anha, elle a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le jugement de quoi? D'une chose avant de se lancer dans ce qu'elle voulait faire, c'est-à-dire offrir un cadeau. Donc avant de se lancer, elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, ya Rasulallah, j'ai deux voisins, à qui dois-je offrir mon cadeau entre les deux? Et là, il lui a dit, à celui qui est le plus proche de toi, au niveau de ta maison. Hein? Donc là, on voit encore une fois, la fa'ida, poser la question avant de faire quelque chose. Pose la question, pose-toi la question. Est-ce que j'ai deux choix? Est-ce que je fais ça ou ça? Eh bien, regarde, religieusement, quelle est la chose la plus conforme à ce que l'islam te demande? Et pour cela, il faudra que tu poses la question aux gens de science, si tu ne sais pas. Taïeb, l'ilm, la science, avant la parole et l'acte. Naam. قال الإمام زيد المدخلي رحمه الله تعالى هذان الحديثان يفيدان أنه إذا تعدد الجيران ولم يستطع أن يعمهم بالهدية فإنه يهدي إلى أقرب الجيران من باب منزله لأنه أولى بذلك من الأبعد فإن كان الحال واسعة ويستطيع أن يعمم بالهدية أو الصدقة الجيران جميعا فالأجر على قدر النصب أي على قدر العمل يؤجر الإنسان. يجي الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. Donc ces deux hadiths qui sont les mêmes en vérité, mais avec deux chaînes de transmission différentes, nous montrent que lorsque tu as plusieurs donc voisins et que tu ne peux pas donner un cadeau à tous tes voisins, eh bien dans ce cas-là, tu offres ton cadeau à celui qui est le plus proche de toi. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est prioritaire. Et il passe avant celui qui est plus éloigné. Mais si ta situation te le permet et que tu es dans la capacité d'offrir un cadeau à plusieurs voisins ou de donner l'aumône à plusieurs voisins ou à tous tes voisins, eh bien dans ce cas-là, bien sûr, ta récompense sera en fonction de ton acte ou proportionnelle à ton action et aux efforts que tu as fait. D'ailleurs, naam. Donc ça, c'est dans le cas où tu ne peux pas faire le même cadeau à tous. Dans ce cas-là, tu vas privilégier celui qui est proche, ton voisin direct. Wa hakada, Allahu a'lam. Naam. ثم يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأدنى فالأدنى من الجيران. حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال 40 دارا أمامه و40 خلفه و40 عن يمينه و40 عن يساره. Donc on passe au chapitre suivant intitulé le plus proche au plus proche parmi les voisins. D'accord? Du plus proche au plus proche parmi les voisins. طيب. Donc il dit l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-Hussein ibn Hurayth nous a apporté. Il a dit al-Fadl ibn Musa nous a apporté. Selon al-Walid ibn Dinar, selon Al-Hassan. Donc Al-Hassan ici c'est Al-Hassan al-Basri. Rahimahullah ta'ala. Hein? Donc Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a été interrogé sur le voisin. Yani, qui est le voisin? À quel moment la personne, on peut dire d'elle qu'elle est notre voisine? Il a répondu 40 maisons devant, 40 maisons derrière, 40 maisons à droite, et 40 maisons à gauche. Vous voyez? Donc on a un périmètre ici de 40 maisons. Nord, sud, est, ouest. Vous voyez? Non. Al-Hadith isnadu Hassan. Donc ce hadith, ou plutôt ce athar, on pourrait dire même, c'est une parole d'Al-Hassan al-Basri. Sa chaîne de transmission, elle est authentique. Bihamdillah azza wa jal. Mais Ibn Ma'in, rahimahullah ta'ala, donc un des grands savants du hadith, il a dit que dans la chaîne, on a un certain Al-Walid ibn Dinar, qui est un transmetteur qui n'est pas fiable. Ce qui fait que cette parole-là de Al-Hassan al-Basri, elle est faible. Selon Ibn Ma'in. Selon Ibn Ma'in. Même si l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, l'a rendu Hassan. L'a rendu Hassan. Al-Muhim. قال الشيخ في الباب عن أبي هريرة وكعب ابن مالك وعائشة مرفوعا وعن الزهري مرسلا وكلها ضعيفة لكن الحديث حسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. Dans le même يعني sujet, on a d'autres hadiths, d'autres paroles, notamment celle rapportée par Abu Huraira, hein, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حق الجوار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا يمينا وشمالا وقداما وخلفا Lakin, هذا الحديث ضعيف. On a d'autres paroles encore, notamment un hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, le droit du voisin, c'est 40 maisons. Puis il a dit, hakada, 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 c'est-à-dire, il a montré la droite, la gauche, devant et derrière. Donc ça va dans le sens de la parole de Al-Hassan al-Basri. Rahimahullah ta'ala. Mais, encore une fois, ce hadith d'Abi Huraira, il est faible. Comme l'a dit l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala. On a aussi une parole rapportée par Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik. Aïe na'am. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني نزلت في محلة بني فلان وإن أشدهم لي أذى أقدمهم لي جوارا فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا يأتون المسجد فيقومون على بابه فيصيحون ألا إن 40 دارا جارا ولا يدخل جنة من خاف جاره بوائقه. لكن هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله. الحديث également par exemple de Ka'b ibn Malik qui a dit que selon son père qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ô messager d'Allah, je suis allé dans le village, dans le quartier de la tribu de un tel, et celui qui m'a fait le plus de tort, c'était mon voisin le plus proche. Celui qui m'a causé le plus de tort, c'est mon voisin le plus proche. Quand il a entendu ça, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Abu Bakr, Omar et Ali à la mosquée, afin qu'ils se mettent devant la porte de la mosquée et qu'ils crient, certes, les 40 maisons autour sont les voisins, sont le voisinage. N'entrera pas au paradis celui dont le voisin craint sa nuisance. N'entrera pas au paradis celui dont le voisin craint sa nuisance. Mais le hadith, il est faible. Rapporté par Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Une parenthèse ici. Certains pourraient se poser la question, pourquoi les ulama, ils font l'explication même de des hadiths qui sont faibles. Donc ils vont dire, par exemple, هذا الحديث حكمه الضعف. Ce hadith, son jugement, c'est qu'il est faible. D'accord? Mais malgré ça, ils vont quand même expliquer le hadith. Donc pourquoi? Eh bien, les gens de science, ils disent que, parce que, il se peut que même si le hadith il est faible, il se peut qu'il contient un sens qui est bon et qui est correct. D'accord? Donc si le sens il est bon, il est correct, forcément, ils vont en profiter pour expliquer le hadith et inciter les gens à faire des bonnes actions et à se rapprocher d'Allah Jalla wa'ala. D'accord? Non. Il se peut également que le hadith soit faible pour certains savants et qu'il soit authentique pour d'autres savants. Donc il y a aussi des divergences au niveau du statut et du jugement du hadith. وأيضا حديث عائشة مرفوعا طيب قالت يا رسول الله ما أحق أو قالت ما حد الجوار قال 40 دارا هذا حديث également rapporté يعني par عائشة qui a dit donc qui a demandé au prophète يا رسول الله qui est le plus en droit c'est-à-dire quel est la limite du voisinage et il aurait répondu 40 maisons. Mais le hadith il est faible aussi. Donc, également Zuhri qui a rapporté, mais donc pour résumer, tous les hadiths qui mentionnent des 40 maisons, ils sont faibles. Ils sont faibles. D'accord? Na'oud il a حديث الحسن البصري في إسناده الحسين ابن حريث وهو أبو عماد وهو الثقة. Donc on revient au hadith الحسن البصري. dans l'adab al-mufrad. Parmi ces transmetteurs de hadith, on a Al-Hussein ibn Hurayth, qui est Abu Imad, et il est fiable, alhamdoulilah. Thumma Al-Fadlu ibn Musa, wa huwa Abu Abdullah al-Marwazi, fiqhatan sahib al-Sunnah. Et on a Al-Fadlu ibn Musa, un rapporteur fiable de hadith, wa aydan Al-Hassan al-Basri. Donc le seul qui est faible dans la chaîne de transmission, c'est Al-Walid ibn Dinar, comme l'a dit Ibn Ma'in, rahimahullah ta'ala. Ikhtalaf al-ulama fi hadd al-jiwari ala aqwal. Tayeb. اولا جاء عن علي رحمه الله ورضي الله عنه من سمع النداء فهو جار. Les ulama, ils ont divergé. Donc là, on va donner l'avis le plus correct par rapport à quelle distance ou à quel moment on peut dire que la personne est notre voisine. Les ulama, ils ont divergé. Premier avis, celui de Ali radiyallahu anhu, qui a dit celui qui entend l'appel à la prière, eh bien c'est ton voisin. Celui qui entend l'appel à la prière, c'est ton voisin. Donc là, en gros, celui qui entend le même adhan, le même adhan. À l'époque, vous savez qu'il n'y avait pas les haut-parleurs, il n'y avait pas les micros. Donc, le mot adhan, il montait donc sur le toit de la mosquée, par exemple, et il faisait l'adhan. Et Ali, il a dit, donc, tous ceux qui entendent le même mot adhan, ce sont des voisins, les uns pour les autres. C'est eux les voisins. D'accord? Donc, il y avait un périmètre, peut-être, je ne sais pas, moins d'un kilomètre, ou plus. Vous voyez? ثانيا قيل من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. Deuxième avis, certains ont dit que celui qui prie avec toi la prière de subh à la mosquée, c'est ton voisin. En général, ceux qui prient subh à la mosquée, ce ne sont que les gens qui habitent près de la mosquée. D'accord? Il n'y a pas de voyageurs à ce moment-là, il n'y a pas de passants, les gens qui travaillent. Non, ce sont les voisins de la mosquée. ثالثا عن عائشة رضي الله عنها حد الجوار 40 من كل أو 40 دارا من كل جانب. Troisième avis, selon Aïcha رضي الله عنها, qui a dit la limite du voisinage, c'est 40 maisons de tous les côtés, nord, sud, est, ouest. 40 maisons. Donc celui qui habite à moins de 40 maisons de chez toi, c'est ton voisin. Hein? كل ما جاء تحديده عنه صلى الله عليه وسلم 40 فلا يصح. Il dit Cheikh Raslan Fidallah Ta'ala, tout ce qui a été rapporté du prophète صلى الله عليه وسلم concernant une limitation au niveau de la distance ou du nombre de maisons, eh bien n'est pas authentique. N'est pas authentique. إذن فالظاهر أن الصواب تحديده بالعف والله أعلم. انتهى كلام الألباني رحمه الله تعالى. فالصواب أن تحديده على حسب العف. Mais ce qui est apparent, comme l'a dit l'imam الألباني رحمه الله تعالى, ce qui est correct ici, c'est que la restriction ou la limitation du nombre de maisons dépend de ce qui est connu dans l'usage. De ce qui est connu dans l'usage des gens. Au niveau du langage. Hein? Parce qu'il n'y a pas de texte explicite authentique. Donc tu ne peux pas donner un nombre exact. Tu ne peux pas. Donc tu vas revenir à ce qu'on appelle al-urfu. Ce qui est connu de l'usage, dans le langage, dans le mot voisin. Donc aujourd'hui, hein, celui, مثلاً, qui habiterait dans un quartier autre que le tien, est-ce que tu vas dire que c'est ton voisin? Est-ce que c'est connu dans le langage courant des gens aujourd'hui que c'est un voisin? Non. En général, non. Alors que celui qui habite dans ton quartier, ce qui est connu dans le langage courant des gens, dans l'esprit des gens, c'est que tu peux l'appeler voisin, c'est mon voisin. D'accord? Parce qu'il habite dans ton quartier. Ou peut-être que dans d'autres endroits, le voisin, c'est que celui qui va habiter dans ton village, ou dans ta rue, ou dans ton immeuble. D'accord? Dans tous les cas, il faut revenir à ce qu'on appelle el-ruf, ce qui est usagé, ou ce qui est connu des usages au niveau du langage, au niveau de la conception du voisin. Et Allah est le plus savant. Non. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا علقمة بن بجالة بن زيد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. Et enfin on passe au dernier hadith de ce chapitre là. Il dit l'imam al-Bukhari, Bishr ibn Muhammad a dit, Abdullah nous a informé, donc Abdullah ici, c'est Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak nous a informé, il a dit, Ikrima ibn Ammar nous a informé, il a dit, Alqama ibn Bajalat ibn Zayd nous a rapporté, il a dit, j'ai entendu Aba Hurayrata radiallahu anhu dire, il ne commence pas par le voisin le plus lointain. D'accord? Tu ne commences pas par le voisin le plus lointain avant le plus proche. Mais il commence par le plus proche avant le plus lointain. هذا الحديث ضعيف الإسناد. الحديث ضعيف. فيه علقمة ابن بجالة ابن زيد ولا يعرف كما قال الذهبي في الميزان. Donc le hadith est faible. Parce qu'on a un certain Al-Qama ibn Bajala ibn Zayd qui ne fait pas partie des transmetteurs fiables de hadith, en tous les cas qui n'est pas connu. On ne sait pas s'il est fiable ou pas en fait. On ne sait pas s'il est fiable. Donc, vu que tu ne connais pas l'état du transmetteur de hadith, tu ne peux pas émettre un jugement et tu ne peux pas donc faire confiance à la personne tant que tu ne la connais pas. D'accord? Comme l'a dit l'imam Al-Zahabi, rahimahullah ta'ala. Mais encore une fois, on a vu que cela concorde avec les hadiths qu'on a vus précédemment. Donc le sens, il est bon. Et il n'y a pas de mal à l'expliquer dans ce cas-là. Hein? Fa al-kalimat minha al-aqsa. Ay al-ab'ad. Donc al-aqsa, dans la langue arabe, c'est le plus lointain ici. Al-aqsa, le plus lointain. Alors que al-adna, le plus proche. D'accord? Al-adna, al-jaru, al-adna, le voisin le plus proche. Al-jaru al-aqsa, le voisin le plus lointain. ما يؤخذ من الحديث بيان أنه كلما قرب الجار زاد حقه على جاره الأقرب فالأقرب فالأقرب فيبدأ بالأدنى قبل الأقصى. Ce qu'on tire du hadith, c'est quoi? C'est que plus ton voisin sera proche de toi et plus il aura un droit sur toi. Plus il est proche de toi au niveau de la distance, du palier, de la porte, et plus son droit sera sur toi, sera fort et sera affirmé. Et ainsi de suite. Donc du plus proche au plus proche, au plus proche, au plus proche. Du plus proche au moins proche, et ainsi de suite. D'accord? Donc on va commencer toujours la priorité, encore une fois, par celui qui est le plus proche de toi. Et ainsi de suite, tu t'éloignes comme cela, yani, jusqu'à le plus lointain de toi, hein, parmi ceux qui peuvent être appelés comme étant ton voisin. Wahakala. Alhamdulillah. Naktafi bihada, inshallah ta'ala. Wa l'ilmu indallah. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama taslima. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.